Conférence du Père Philippe à Rimont, le 26 décembre 1987.
D'avancer dans le texte ou d'être plus dépendant des circonstances. Je crois que c'est mieux d'avancer dans l'Apocalypse parce qu'il ne faut pas tarder trop. L'Apocalypse représente un tout. Il représente un livre particulièrement important pour nous durant l'année mariale. C'est un versant sur lequel on doit regarder le mystère de Marie. Ça, c'est bien évident. Et c'est peut-être pour nous le versant. Vous voyez, l'Apocalypse a deux regards. Hein, face au dragon et face au Père. Et le versant du dragon, il est proche, j'allais dire, de notre irascible. Et le versant du Père, il est proche, comprenez bien, de ce qu'il y a de plus tendre et de plus aimant dans notre cœur. Ce qui est le plus terrible, c'est d'être des orphelins, je crois. Et au fond, c'est la grande attaque du démon, c'est de tuer le Père. Il est arrivé à le faire, hein. Ça veut dire qu'il a vraiment tué le Père dans notre monde d'aujourd'hui, dans notre monde occidental. Et ce qu'il y a de plus terrible en nous, comme vulnérabilité la plus profonde, c'est de ne plus avoir de Père. Notre monde occidental est un monde sans Père. C'est pour ça que la démocratie marche si bien. Qu'on essaie de la baptiser dans tous les sens. Parce qu'il n'y a plus de père. Alors les enfants s'empoignent de toutes les manières. Mais tous les partis politiques qui se multiplient à l'infini, qui se disputent. Il n'y a plus de père. À tous les niveaux. Au niveau familial et au niveau politique, il n'y a plus de père. Il n'y a plus de père au niveau intellectuel. On a peur d'avoir un maître. Une frousse intense d'avoir un maître. Le maître, c'est celui qu'on rejette le plus parce qu'on a peur d'être influencé dans son intelligence. En voyant pas qu'avoir peur d'être influencé par son intelligence, c'est par le fait même tomber dans toutes les erreurs possibles. Regardez tous les domaines où on a peur de découvrir un premier. C'est peut-être pour ça qu'on a tellement de peine, même au point de vue métaphysique, de découvrir la substance. Parce qu'elle est quand même paternelle, la substance. Découvrir ce qu'il y a de premier. Le livre Zeta d'Aristote, à ce point de vue-là, est une merveille. Les premiers. Découvrir tous les premiers, dans tous les sens. Et découvrir cette frousse intense qu'on a de découvrir un premier. Et on voudrait tellement le détruire. Pour être premier, c'est évident. Derrière tout ça, il y a un orgueil fou. Parce que tant qu'on accepte un père, il y a un domaine dans lequel, au moins, on est humble. On est dépendant. Humble dans son intelligence, humble dans son affectivité, humble dans tous les domaines. Vous voyez, dans l'art, hein, la difficulté qu'on a d'accepter un maître. C'est peut-être même là où c'est le plus visible. Je me souviens ce que disait Claudel. Ça restera dans ma tête jusqu'à la fin de ma vie. C'était à Fribourg. Parce que le cardinal Journet aimait beaucoup Claudel. Alors, de temps en temps, Claudel venait lui dire bonjour. C'était le théologien de Fribourg. C'était le cardinal Journet. Alors, on profitait à ce moment-là d'avoir quelquefois des petites conférences claudeliennes par Claudel lui-même. Qui était très claudelienne. Alors, on posait les questions à Claudel. Est-ce que vous avez eu des influences? Quelles sont les influences que vous avez subies? Pour lui montrer quels sont vos maîtres. Quand on nous demande, nous, la question, quels sont nos maîtres, on dit Aristote. Et ça fait rugir. Connaissent qu'Aristote est un maître. Et que c'est pas Hegel, embêtant. Aristote, saint Thomas. Il y en accepte d'en avoir d'autres. Mais il y en a deux au moins qui sont forts. Alors on posait cette question à Claudel. Claudel répondait, mais avec le plus grand sang-froid, je le vois encore. Il avait aucun. Je n'ai subi aucune influence. Chapeau bas. C'était terrible. Je n'ai subi aucune influence. C'est très curieux. À ce point de vue-là, c'est très révélateur de tout un monde d'aujourd'hui qui n'accepte pas de subir l'influence. Vous voyez, je crois que l'année mariale, ça doit être ça pour nous. Cette correction que l'Esprit Saint réclame de nous. Que nous acceptions, mais humblement. Après tout, est-ce que ce n'est pas un des sens profonds de la parole de Jésus? Si vous ne devenez comme des tout-petits, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Le tout-petit ne refuse pas son père, ne refuse pas sa mère. Dans notre monde d'aujourd'hui, je crois que c'est l'herméneutique. Hein. Si vous n'acceptez pas de devenir comme des tout-petits, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Alors il faut accepter cette paternité, cette maternité. Accepter d'avoir des pères, des grands-pères, même des oncles insupportables, mais on les accepte, ils ont une influence sur nous. On fait partie d'une famille. Vous voyez la force de la vie religieuse à ce point de vue-là. C'est qu'on accepte, c'est une famille, on accepte les diverses influences. On accepte que on est un père, on est une mère, on accepte d'entrer à fond dans ces influences paternelles. Je crois que l'Apocalypse, à ce point de vue-là, hein, c'est un des aspects de l'Apocalypse. Montrer la rage du démon contre la mère. Chapitre 12. Et je crois que cette année-ci, la contemplation de Noël, pendant tout l'octave de Noël, puisque nous faisons l'octave, hein, spirituellement, la contemplation de Noël, ça doit être sous cette grande lumière du chapitre 12. Ça m'impressionne beaucoup, moi. C'est un Noël où le démon est déchaîné. Absolument déchaîné. Et on le sent très bien. Il était déchaîné, hein. Dragon rouge feu, déchaîné à Noël. Il avait tout bien préparé, l'édit de César. Premier obstacle. Déranger Marie, un peu de distraction, l'édit de César. Je ne crois pas que César a prié avant de donner son édit. Je ne crois pas. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Je ne crois pas qu'il a prié. Je crois que c'était une volonté de domination. L'édit de César, le recensement. Après, vous voyez l'attaque différente, hein, du démon sur César et l'attaque différente sur les descendants de David. Les descendants de David, il les a endormis par la concupiscence. Plus de place. À l'hôtellerie, ne nous dérangeons pas. Plus de place. Impossible. On ne se dérange pas. C'est curieux, puisque c'était pour les descendants de David, Noël n'était pas Noël. Hein. C'est depuis le refus que Noël est devenu Noël. Et ils ont joué un petit rôle dans leur refus pour faire comprendre ce que c'est que Noël. Noël est marqué maintenant de ce conditionnement. Plus de place à l'hôtellerie. Et dans tous les Noëls, il n'y a plus de place à l'hôtellerie. C'est curieux. Ça se répète. temps en temps, on écarte Marie. De temps en temps, on écarte Joseph. Le bon Joseph, hein, comme on disait hier. Le très bon Joseph. On l'écarte. Sans savoir que c'est Saint Joseph. Sans savoir que c'est la Vierge Marie. Je crois qu'ils ont été chloroformés par le démon. Tous les hommes, David, c'est le danger. C'est les bons moines qui dorment. Ça arrive, vous savez. Ils dorment parce qu'ils ont veillé beaucoup avant. Ils ont beaucoup veillé, ils ont beaucoup travaillé avant. Alors on a le droit à dormir quand même. Hein. On va aller jusqu'au bout, c'est un petit peu trop. Chloroformer, c'est un des pièges du démon. Vous voyez, l'irascible, concupiscible. Hein. Toujours comme ça. Bête de la terre, bête de la mer. L'irascible, concupiscible. Et il a chloroformé les descendants de David pour que, de fait, plus de place. Ça fait partie du mystère de Noël. Après, évidemment, il y a Hérode. Mais je crois que durant la nuit de Noël, si on était attentif, on verrait, on entendrait les rugissements du démon. J'en suis sûr. C'est pour ça que les pères de l'Église disaient qu'il fallait que Joseph soit là comme gardien. Ça fait partie de Joseph. On ne l'a pas souligné hier, mais ça fait partie de Joseph. Hein. Joseph, il a le bouclier de Michaël. On lui a donné ça. Ça fait partie des Josephs laïcs. Ça. Des Josephs qui sont les saints qui sont dans le monde. On leur donne un bouclier. Les moines ont le droit de ne pas en avoir parce qu'ils ont une clôture. Mais tandis que les laïcs n'ont pas de clôture, alors il faut que chacun ait sa propre clôture. Et la famille doit avoir sa propre clôture. Défendant, il défend, il empêche le démon de pénétrer. Noël n'est pas... C'est une fête de joie intérieure. C'est pas du tout pacifique. C'est pas un Noël pacifique. Pas du tout. Vous voyez, peu de temps après Noël, Hérode, le pire des massacres. Et ça, si ça se passait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dirait? Tuer tous les enfants, et c'est sans les enfants. Marthe était très impressionnée par ça. Très, très impressionnée. Elle avait eu cette vision très curieuse au moment de la proclamation de Marie. Proclamation de son Assomption. Elle avait vu quelque chose d'analogue, c'est du reste très curieux, la naissance de Marie dans le ciel, parallèle à la naissance de l'enfant Jésus. Et elle avait vu que cette naissance de Marie dans le ciel était accompagnée d'une quantité de petits innocents. La mère, on l'a proclamée, non loquendo sed moriendo. Ce n'est pas en parlant, mais en mourant. C'est ça les innocents, c'est ceux qui acceptent de proclamer la grandeur de Dieu en mourant, sans parler. Et elle avait vu cette vision très très belle. Une quantité de jeunes, de petits enfants, étaient morts pour faire partie de ça. Je me souviens, ça m'avait beaucoup touché quand j'avais appris la mort d'un de mes petits-neveux. Il y avait un jeune vicaire qui était très pris par la tuberculose et qui avait contaminé, je crois, 15 enfants de cœur. Vous voyez ce que c'est? 15 enfants de cœur qui sont morts tout jeunes par la tuberculose foudroyante portant sur la tête. Et à ce moment-là, on n'arrivait pas encore à les soigner. C'était juste au moment où on commençait, mais... Et Marthe avait dit: ils font partie de tous ceux qu'elle avait vus. C'était juste à cette époque-là. Ils font partie de tous ceux qui entourent Marie. Le démon agissait avec rage. Je crois que la rage du démon depuis la proclamation de l'Assomption est particulièrement forte. Et dans cette année mariale, la rage du démon est particulièrement forte. Chaque fois que Marie est plus présente, le démon est toujours plus présent. Chaque fois, ça, il faut avoir cette réaction saine. Quand on a un sang démon là, ben, ça prouve que Marie veut davantage dominer, et être davantage là. Et alors on avance, à la place de reculer, on fonce. avec Marie, en sachant qu'elle est là et qu'elle nous aide, et qu'elle nous donne la force de pouvoir aider. C'est pour ça que c'est très beau de voir l'Apocalypse dans cette année mariale, voyez, et d'essayer de comprendre toutes les fêtes de Marie dans la lumière de l'Apocalypse. Faites ça, même quand j'oublie. Faites-le, toutes les fêtes de Marie dans la lumière de l'Apocalypse. Noël dans la lumière de l'Apocalypse. Alors, continuons, parce qu'autrement, on serait à rester sur le même vision. Alors, nous avons, à partir du chapitre 4, nous sommes entrés dans l'Apocalypse proprement dite. Le bientôt de Dieu, il vient. Il vient. Monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver bientôt. Alors, la grande vision céleste du ciel que nous avions vue, selon une hiérarchie tout à fait particulière, le trône. Et assis sur le trône, quelqu'un. Et là, je vous fais tout de suite remarquer, parce que je crois que ça joue un très grand rôle, et peut-être qu'on ne le voit pas assez. Et tout autour du trône, un arc en ciel, semblable à un aspect d'émeraude. Qu'est-ce qui caractérise le Père? C'est la paix. L'arc en ciel. Donc, la toute-puissance pacifique. Est-ce que la toute-puissance pacifique, est-ce que ce n'est pas l'autorité? L'autorité du Père. Ce n'est pas ça qui est montré avant tout. C'est le Père, c'est celui qui a l'autorité, qui est celui au-delà duquel on ne peut pas aller. Quand vous allez au-delà du Père, hein, quand vous allez au-delà du Père, vous tuez le Père. C'est une manière très élégante de le tuer. C'est aller au-delà du Père. Hein. Ça, c'est très important. Au-delà du Père, par le point de vue de l'intelligence, par le point de vue de l'affectivité, par le point de vue de sensibilité, hein, au-delà du Père. Alors on le tue. Le Père, c'est celui à qui on vient. C'est pour ça que c'est le trône. Et tout autour du trône, un arc-en-ciel. Et immédiatement, et tout autour du trône, 24 trônes. Alors c'est les vieillards. C'est très beau ça. C'est que le Père veut tout de suite faire participer à l'humanité son autorité. Ça, c'est les 24 vieillards. Les 24 vieillards représentent l'autorité. Hein. Parce que c'est les vieillards qui ont autorité, selon les vieilles mœurs anciennes. Les vieillards ont l'autorité parce qu'ils ont la grande expérience que les autres n'ont pas. Alors, ils ont l'autorité. C'est les 24 vieillards. Assis, habillés de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Alors là, c'est les trois aspects qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je crois que c'est l'Esprit Saint. Le Père est créateur, le Père est celui qui donne son esprit. Vous voyez, participation de l'autorité au vieillard, et le souffle de vie que le Père donne, l'esprit de vie, l'Esprit Saint, exprimé selon le symbolisme des éclairs, des voix et du tonnerre. Toujours, tout ce qui vient de Dieu est trinitaire, tout ce qui vient de Dieu. Alors là, ce serait quelque chose aussi très important à voir, vous voyez, au point de vue théologie mystique. Hein, parce que la Trinité, elle est trinité de la Trinité, hein, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que les processions que nous étudions d'une façon spéculative doivent s'étudier aussi d'une façon trinitaire, d'une façon mystique. Elles sont toujours trois. Il y a deux processions. Processions selon l'intelligence. Ça, c'est l'aspect spéculatif. C'est la théologie spéculative qui dit ça. Et selon l'amour, selon la volonté, le Fils, qui est lumière, et la lumière, bon, procession selon l'intelligence, et l'Esprit Saint, qui est amour, procession selon la volonté. fausse. La théologie scientifique a toujours le danger de nous faire croire que c'est linéaire. Alors qu'en réalité, ce n'est pas linéaire, c'est analogique. Et l'analogie, comme on le disait hier, hein, c'est allo, allo, donc c'est divers, divers. Hein, c'est dans l'unité, il ne faut jamais l'oublier. Donc c'est juste l'inverse de l'univocité. Juste inverse. Parce que l'université, c'est pas dire allô, allô, c'est dire moi, moi. Faites une fois ça au téléphone, dites-moi, vous entendrez moi. C'est notre monde univoque, l'uniformité. Quand vous parlez à un autre, vous parlez encore à vous. Très difficile de parler à l'autre. Ordinairement, vous parlez à l'autre comme vous parlez à vous-même. La première préoccupation, c'est de dire, voilà ce qui m'est arrivé. Moi, moi. Allô, allô. Le Père, le Fils, le Père, l'Esprit Saint. Là, vous avez une diversité plénière dans l'unité. Et alors, c'est ça qui me semble très curieux. C'est que ici, tout de suite, c'est le Père et l'Esprit Saint qui nous est montré. Et il y a les trois. Et voyez bien que dans les trois, qu'est-ce qu'il dit? Dans cette vision des trois, sortent des éclairs. Les éclairs, c'est bien la lumière. Il n'y a rien de plus lumineux que l'éclair. Grâce au contraste. Pour nous, c'est extraordinaire, la lumière. Quand vous avez un ciel orageux et qu'il y a des éclairs, c'est foudroyant. Parce que justement, les éclairs, c'est quelque chose d'étonnant. Quand tout un ciel est illuminé par l'éclair, c'est extraordinaire. Alors, les éclairs, les voix et le tonnerre, vous voyez? À l'intérieur de la même procession, il y a les trois. Donc, il y a la présence de la lumière, il y a la présence de la voix, c'est l'Esprit Saint, et la présence du tonnerre, c'est le Père, ça c'est évident. L'autorité se manifeste par le tonnerre. Vous savez bien. Prenez un professeur qui perd son autorité, parce qu'il y a du chahut, qu'est-ce qu'il fait ? Il tape fort. Et s'il pouvait faire que le tonnerre existe, il faudrait que le tonnerre existe. Ça, c'est une autorité qui veut rétablir le silence. Il fait beaucoup de bruit pour qu'il y ait du silence. Et là, c'est curieux, hein, les trois. Et là, essayez de comprendre. Comment ça brise cette espèce de vision uniforme que nous avons, nous, dans la procession, du moins, que très facilement nous avons, parce que nous croyons comprendre. Et c'est au moment où on croit comprendre qu'on ne comprend rien. Celui qui voit la procession uniformément selon l'intelligence, c'est-à-dire le premier analogué pour nous, qui est notre intelligence, on le transporte en Dieu et on croit comprendre. C'est à ce moment-là où vous êtes dans l'uniformité et vous êtes juste à côté. Alors c'est très beau de voir que l'Apocalypse détruit ça. Théologie mystique. Les trois. Et du trône sortent des éclairs, des voix et du tonnerre. Je me demande si ce n'est pas la vision de Marthe. Hein. Foyer de lumière, de charité et d'amour. C'est exactement ça. C'est très curieux. Foyer de lumière, c'est les éclairs. Dans un monde orageux comme le nôtre, hein, c'est les éclairs. Les voix, charité fraternelle. La charité fraternelle, c'est sous le souffle de l'Esprit Saint. On sème sous le souffle, donc c'est la voix. retour vers le Père, l'amour. Puisque toute autorité repose sur l'amour. C'est curieux, ces choses-là. Il y a des coïncidences comme ça, mystérieuses. Marc n'a jamais parlé de ce passage de l'Apocalypse, c'est sûr. Je crois qu'on lui aurait dit, mais c'est sûr, c'est bien évident. C'est ça les foyers de charité. Les foyers de charité, comprenons bien, pas ce qui est réalisé. Mais les foyers de charité, dans la sagesse de Dieu, c'est-à-dire le renouveau de l'Église. Le renouveau de l'Église retourne à cette procession à partir du Père. Dans le monde d'aujourd'hui, il faut que la doctrine soit des éclairs. Alors la doctrine qui devient des éclairs, qu'est-ce que c'est? C'est la doctrine qui revient à sa source. Vous savez bien ce que disent les pères de l'Église à propos de la théologie. Chaque parole de Dieu est comme un silex. Et c'est une parole qu'on frotte à côté d'une autre parole d'où jaillit la lumière. Ça, c'est étonnant. Comme définition de la théologie, c'est des éclairs. Je t'ai raconté cette histoire de Guy de la Rigaudie qui m'a raconté ça, parce que je l'ai encore connu, notre cher Guy. Guy de la Rigaudie qui à ce moment-là faisait... C'était prouesse. Alors, il y avait un de ses amis qui était entré chez les Dominicains. Il n'est pas resté du reste. Étant donné son originalité trop grande, c'était un russe immigré. Alors il avait toute la logique du russe. Alors pour me faire comprendre, comme j'avais été son père maître, il voulait me consoler pour que je comprenne un tout petit peu la logique merveilleuse de ce russe. Il avait une très bonne volonté, merveilleuse. Donc il était grand scout devant l'Éternel, en face de Guy de la Rigaudie. Et alors, ils étaient très, très, très... Il y avait une journée de marche particulièrement fatigante. Ils arrivaient plus tard qu'ils ne pensaient, donc il fallait aller vite. Et Guy avait dit, bon, chacun a sa spécialité, là où il gagne toujours le concours. Et Pierre, puisqu'il s'appelait Pierre, lui, toujours premier pour le feu. Alors, ce soir, un feu numéro un. Un feu numéro un, parce que il faut y aller. Hein. Bon, il était sûr qu'il y aura un feu numéro un. Au bout d'une heure, au bout d'une demi-heure, je crois, il revient après faire la tournée. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit notre Guy, notre Pierre, avec deux silex. Tu as dit qu'il fallait un feu numéro un, donc il faut le prendre à la source. C'est merveilleux, ça. Vous voyez, l'efficacité dans le retour à la source. C'est merveilleux, ça. Moi, je trouve ça extrêmement éclairant. Ça fait des éclairs merveilleux. On voit tout de suite ce que c'est. Et ça sort du Père, de la source. Alors évidemment, il a reçu une engueulade de premier ordre. Parce que Guy n'était pas à ce moment-là dans un état d'admiration. Il aurait eu le temps, il aurait dit, oh, c'est admirable, quelle intelligence. À ce moment-là, il a dit, que bêtise. Oui, comme quoi, quand on est trop intelligent, on peut devenir bête. Il faut y penser, ça, parce que quand on lit ce texte, des éclairs, des voix, des tonnerres, de temps en temps, il y a des prédicateurs qui cherchent la lumière comme ça. Et brûlent devant le trône sept torches de feu qui sont sept esprits de Dieu, les sept esprits de Dieu qui sortent du Père. Vous voyez, à l'intérieur de la procession, il y a les, ou bien au-delà des processions, les sept esprits de Dieu qui sont les missions. Les missions, c'est les sept esprits de Dieu. On voit tout de suite les missions. Les missions qui procèdent de la procession, qui viennent après, mais, et qui sont ce qu'on voit le plus brûlant devant le trône, cette torche de feu. C'est beau de montrer les missions, cette torche de feu, qui sont les sept esprits de Dieu. Et devant le trône, comme une mer vitrifiée, semblable à du cristal. Alors je vous avais dit, c'est sans doute le grand secret du mystère de l'Immaculée Conception. Nous pouvons le dire, nous. Mais vous comprenez qu'avant la proclamation du mystère de l'Immaculée Conception, c'était bien difficile de découvrir devant le trône. Et c'est après l'Esprit Saint. C'est le lien entre le mystère de l'Esprit Saint et Marie. Et montrer que tout de suite, les sept esprits de Dieu sont présents, imprègnent cette mère vitrifiée semblable à du cristal. Et immédiatement, une fois qu'il y a Marie et l'Esprit Saint, vous pouvez comprendre les quatre vivants. Vous voyez, c'est un ordre qui n'est pas du tout linéaire, qui est un ordre de la conduite de Dieu. C'est la vision de la très sainte Trinité à travers la conduite de Dieu sur l'Église. Les quatre vivants, alors nous avions vu ça longuement, et je crois que c'est très important de voir que ces quatre vivants, c'est le mystère de l'incarnation. Alors contemplez le petit enfant Jésus à travers les quatre vivants. Le symbolise les quatre vivants. Ça ne m'étonnerait pas que Marie ait pensé aux quatre vivants. Ézéchiel connaissait la grande vision des quatre vivants. Le petit enfant Jésus, c'est le vivant. Il était plein de vie, vous savez, bien plus que les autres petits. Plein de vie, et donc, pour exprimer cette vitalité plénière, cette vitalité surabondante, c'est les quatre vivants. Vous avez quatre perspectives. Éclair, voix et tonnerre. Alors là, c'est le silence. La voix, quelquefois, se fait entendre par le silence. Il faut beaucoup de silence pour qu'on comprenne ce que c'est que la voix. S'il n'y a pas assez de silence, on ne comprend plus du tout ce que c'est que la voix. Alors vous avez les quatre. Le jeune taureau, petit enfant Jésus, le jeune taureau. Le lion. Le visage d'homme. Et là qui est le prolongement du visage de la femme. C'est extraordinaire, de Marie. Et puis l'aigle. Contemplation du tout petit enfant Jésus à travers les quatre. Parce que c'est vrai de l'enfant Jésus et c'est vrai du crucifié. Et tout autour et au-dedans, ils sont pleins Dieu. C'est la plénitude de la lumière. Ils sont pleins Dieu. Vous voyez, l'opacité de la terre est vaincu par l'intensité de lumière, puisque c'est le Verbe de Dieu. Là, on comprend ce que c'est que d'être uni personnellement. L'union hypostatique, hein, l'union hypostatique que saint Thomas étudie avec tant de sérieux de théologiens. Et il a raison, il faut le faire. L'union hypostatique, c'est la lumière qui est victorieuse de l'opacité de la terre. L'opacité de la terre, c'est la potentialité, la matière, pure puissance. C'est d'une opacité effrayante. Et c'est vrai, c'est une opacité affolante, la terre, la pure puissance. Notre monde physique est un monde qui implique cette pure puissance. Dieu a voulu que, comme créateur, ce qui a d'ultime, c'est la terre, c'est la matière. Cette opacité, eh bien, cette opacité de la matière est complètement transformée par l'union hypostatique. L'union hypostatique donne à la matière de notre monde, à la matière de notre corps humain, donne une dimension toute nouvelle. Terre divine. Matière divine. Vous voyez quand Théard, il y a de temps en temps des aspects prophétiques, et qu'il faut faire un petit peu attention. Quand il parle de la matière divine, c'est vrai pour le corps de Jésus, mais uniquement. Alors c'est là l'erreur, c'est de ne pas voir la frontière. La matière de notre monde physique est ordonnée au corps du Christ. Alors là, c'est très vrai. Tout l'univers gémit sous l'action de l'Esprit Saint vers le corps du Christ. Et le corps du Christ, c'est ce qui donne à tout notre univers son poids, son sens. Notre univers, par le corps du Christ, par le corps du tout petit enfant Jésus, atteint sa fin, sa dignité, sa transparence, sa lumière, son intensité. Tout notre univers prend son sens dans le corps du petit enfant Jésus. Et donc dans le cœur du tout petit enfant Jésus, dans le regard du tout petit enfant Jésus. Je crois que Marie a compris ça. Il y a quelque chose de cosmique dans toute naissance. Ça c'est sûr, il y a quelque chose de cosmique. Tout notre univers est fait pour la procréation. Qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas. Tout notre univers, tout, absolument. Les dernières galaxies qu'on découvre actuellement sont faites pour permettre que la vie continue. Permettre la procréation. De tous les vivants, même des petits chats. Et la procréation, dans ce cas-là d'ultime, c'est celle de l'enfant Jésus. Elle est conditionnée, hein. Cette maternité divine de Marie est conditionnée par tout l'univers. Elle est victorieuse de tout ce conditionnement, mais ce conditionnement est présent. Elle est victorieuse parce que la maternité divine de Marie, elle est divine. Donc elle est charismatique, miraculeuse, et divine, contemplative. C'est la matière qui est intégrée par le corps du Christ, qui est intégré dans la contemplation, dans l'éternité, qui est intégré dans le mystère même de la très sainte Trinité. Le complément de la très sainte Trinité, c'est le corps du Christ. Complementum. Le complément, c'est l'achèvement. La très sainte Trinité n'avait pas besoin du corps du Christ. Et cependant, la très sainte Trinité avait besoin du corps du Christ et du cœur de Jésus. Le Père avait besoin du cœur de Jésus. Pour manifester qu'il était Père. Il avait besoin du cœur du tout petit enfant Jésus pour faire comprendre qu'il était Père, pour faire comprendre la tendresse du Père, pour faire comprendre la profondeur de cette tendresse du Père et pour faire comprendre l'autorité du Père tout entière ordonnée à l'amour. Parce que c'est à l'égard de l'enfant Jésus que le Père peut exercer son autorité. La première fois où le Père exerce son autorité, c'est à l'égard du cœur de l'enfant Jésus. Et à l'égard de l'intelligence de l'enfant Jésus, à l'égard du taureau, du lion, du visage d'homme et de l'aigle. Toujours ces quatre dimensions. Il ne faut jamais séparer, hein. Là encore, évitons l'uniformité. Et l'uniformité, c'est dire à le petit enfant Jésus, oui, je regarde un petit enfant. Vous voyez, aujourd'hui, on serait tenté de mettre un petit enfant dans la crèche, hein. En disant, oh, c'est ça, moi on comprendra si un petit enfant, et puis on mettra la petite jeune fille qui vient d'avoir, la petite jeune maman, on la mettra crèche vivante. Hein. Et alors on comprendra, oh, comme sera vivant. Mais non, attention. C'est très bien de faire ça, c'est très bien. Quelquefois c'est nécessaire, mais il faut vite après montrer que c'est pas ça du tout. Que c'est tout à fait autre chose. Que c'est ça. C'est ça, mais c'est tout à fait autre chose. C'est le grand mystère de la Trinité Sainte présente dans notre univers. C'est curieux, ça. Et c'est tout l'art chrétien, ça. Hein. L'art chrétien ne doit pas tomber dans la ressemblance la plus forte possible, de prendre pour montrer le visage de la mère, la Vierge qui paraît la plus merveilleuse, le visage de la jeune fille le plus parfaite. Voilà le visage de la Vierge. Alors il y a un petit moment où on tombe dans quelque chose, hein, la vaseline, vous savez. C'est quelque chose qui ne va plus du tout. Elle a montré la force. Et c'est vrai, c'est ça qu'il y a, le taureau. Le taureau, c'est la victime. Le petit enfant Jésus est victime dans la crèche. Il est royal, le lion. Il est le petit enfant de Marie. Et il contemple quatre dimensions. Mais comme serment de Noël, hein, quatre dimensions. Et le Père exerce son autorité sur la victime. Le Père exerce son autorité sur le lion. Le Père exerce son autorité sur l'homme. Le Père exerce son autorité sur le contemplatif. Cette autorité paternelle qui nous révèle ce qu'est le Père. Le Père est source de cet état victimal d'amour. Il est source de ce qu'est la royauté. Il est le père de tous les rois, roi des rois et père du roi des rois. Il est le père de toute la race humaine, du fils d'homme, visage du fils d'homme. Et il est le père de la contemplation. Il n'y a que le père qui est le père de la contemplation. Hein. D'habitude, l'autorité paternelle s'arrête à la contemplation. Hein. Un père, selon la chair et le sang, ne dira pas à son fils qui entre dans la vie monastique « Je suis ton père de ta contemplation. Je maintiens ma paternité jusque dans ta contemplation. » Le fils dirait « Mais non, je suis créé à l'image de Dieu. Et c'est en tant que créé à l'image de Dieu que je contemple. » Ce qui serait juste. Tandis que le père est le père de la contemplation. Vous voyez, je crois que c'est très beau, les quatre vivants, hein, pour nous. Le mystère de Jésus, le mystère de la petitesse de Jésus, et le mystère donc de la paternité en même temps. Et ils n'ont de repos jour et nuit, ils disent « Saint, Saint, le Seigneur Dieu ». La première chose que Jésus nous apporte dans son cœur de tout petit enfant, de jeune taureau, de lion, de visage d'homme et d'aigle, c'est l'adoration. L'adoration de la triple sainteté de Dieu. Et devant cette adoration, les 24 vieillards tomberont devant celui qui est assis sur le trône. Pour bien nous faire comprendre que c'est l'adoration. Les 24 vieillards sont là pour nous montrer cette adoration intérieure de Jésus. Donc les 24 vieillards, c'est la liturgie de l'enfant Jésus. Mais le contraste des vieillards et de l'enfant Jésus, ça c'est Noël. Ce contraste étonnant, ce contraste merveilleux. La liturgie de Noël, c'est ça, c'est ce contraste des 24 vieillards qui tombent à terre. Hein. La liturgie de ceux qui tombent à terre en face de l'enfant Jésus. Pour que l'enfant Jésus puisse seul nous faire comprendre son silence. Les 24 vieillards tombent devant celui qui est assis sur le trône et ils se prosternent devant celui qui vit pour les éternités d'éternité. Et ils jetteront leur couronne devant le trône. Voilà la liturgie de Noël. Ils jettent leur couronne, les 24 vieillards. La liturgie de Noël, c'est très particulier, hein, comme liturgie silencieuse. C'est difficile pour nous, hein. C'est très difficile d'avoir une liturgie silencieuse. Et ça, c'est les 24 vieillards qui jettent leur couronne. C'est merveilleux de saisir intérieurement, ça a été ça que Marie a vécu. Ce premier moment, vous voyez, du vivant. L'humanité sainte de Jésus qui fait le pont, le passage, de ce qu'il y a de plus secret en Dieu, la paternité, qui nous manifeste cette paternité et qui nous est donnée. Et qui nous est donnée par Marie et par l'Esprit Saint. après cette grande vision du ciel, qu'il faut tout le temps reprendre, hein, je la reprends exprès, parce qu'elle est infinie de richesse. C'est quand même une des rares visions du ciel que nous avons, hein, chapitre 4 de l'Apocalypse. Or, nous sommes faits pour le ciel, donc il faut tout le temps se renouveler dans cette vision-là, et comprendre que le mystère de l'incarnation fait partie de cette vision. Pour pas avoir la vision de la très sainte Trinité sans le mystère du Christ, sans le mystère du regard de Jésus, sans le mystère de la petitesse de l'enfant Jésus, sans le mystère de l'autorité du Père à l'égard de son tout petit enfant bien-aimé, sans le mystère de Marie présente, la limpidité du cœur de Marie, ce cristal, et les 24 vieillards qui font partie de cette liturgie. Nous avons ensuite, et nous entrons dans cette vision sur le mystère de la prédestination. Le chapitre 5 nous montre ce qu'est la prédestination des saints. Et vous voyez, la prédestination ne peut se comprendre qu'à partir des quatre vivants. Si on veut vraiment saisir ce qu'est la prédestination dans notre vie chrétienne, dans notre contemplation et dans notre vie apostolique, hein, l'apôtre, c'est celui qui est témoin du mystère de la prédestination. C'est un homme hanté de la prédestination. Il est témoin de la prédestination. Que deviendront les pécheurs, saint Dominique? Que deviendront les pécheurs? Ça, c'est l'apôtre. L'apôtre n'y peut pas vivre sans penser aux pécheurs. Il ne peut pas vivre sans penser aux pauvres, aux misérables. Vous voyez, l'apôtre, il ne dort pas à ce point de vue-là. Il ne peut pas dormir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas imiter matériellement, hein. Il faut imiter divinement. L'apôtre, il est hanté du pécheur. Mystère de prédestination. Comme c'est important de voir que le mystère de la prédestination, il provient du Père. Alors il est manifesté par ce livre écrit au-dedans et par derrière, scellé des sept sceaux. C'est le grand secret de Dieu, le grand secret du Père. Les sept sceaux. Alors c'est très beau de voir, vous voyez, que la prédestination enveloppe tout. Au point de vue de l'extension, au point de vue de l'intensité. Et c'est pour ça que c'est si difficile pour nous, cette interprétation des sept sceaux. Parce que, encore une fois, nous sommes toujours uniformes. Alors, ou nous sommes pour l'extension, on oublie l'intensité. On est pour l'intensité, on oublie l'extension. Nous sommes, comme on dirait dans le monde d'aujourd'hui, pour la verticale, et on oublie l'horizontale, on est pour l'horizontale, et on oublie la verticale. Tout le temps, cette espèce de dialectique effrayante dans laquelle on est. Et on est tout le temps comme ça. Comme on a une peine énorme de revenir dans le regard de Dieu, que nous donne la foi. Et c'est ça qui est très étonnant dans ce livre 5, c'est le mystère de la prédestination, il est présent à toute notre vie apostolique, à toute notre vie chrétienne. On est porté par le mystère de la prédestination. Et c'est par le mystère de la prédestination que nous comprenons ce passage de Dieu, du Père vers les hommes, et la place de l'agneau immolé. Vous voyez, alors, on a cette très très belle vision, parce que 4 et 5 se tiennent. Je crois qu'on pourrait dire ceci, hein, comprenez bien, si on essaie de comprendre chapitre 4, les liens entre le chapitre 4 et chapitre 5, c'est l'analogue, c'est-à-dire tout à fait divers et en même temps quelque chose de commun, entre ce qui nous est montré dans la Genèse, entre la création et le gouvernement divin. La création, vous voyez, la création, c'est chapitre 4, le mystère de Dieu qui se lie à la créature. Alors, c'est une création qui implique tout l'aspect surnaturel, puisque au cœur du chapitre 4, les quatre vivants. Donc c'est la super création. Surhomme, la super création. La super création, c'est la création porté par le mystère de la très sainte Trinité, porté par le Père. C'est la grande révélation du Père. Là, on pourrait dire créateur, le créateur, et ici, le Père. Et le Père qui se manifeste à travers les quatre vivants. C'est pour ça que je dis l'analogue, vous voyez. C'est tout le mystère du divin, de Dieu, mystère de Dieu. Le mystère du Dieu trois fois saint. Et dont la sainteté va se manifester à travers les quatre vivants et à travers les 24 vieillards qui proclameront la sainteté de Dieu. Donc, on pourrait dire que c'est le grand mystère de la sainteté. L'Apocalypse commence par la grande révélation de la sainteté de Dieu. Le Dieu trois fois saint. Et le Dieu trois fois saint qui se manifeste à travers les quatre vivants, qui sont quatre fois saints. Vous voyez, ce mystère de la sainteté de Dieu qui se réfléchit dans la sainteté du Christ. Et le chapitre 5, c'est le gouvernement prédestination. Ici, c'est la providence et la prédestination. C'est mieux de mettre là la prédestination. Providence et prédestination. Et la prédestination se noue symboliquement autour de ce livre scellé. La prédestination est un grand secret. C'est un très grand secret. Personne ne peut pénétrer dans ce secret. Et c'est pour ça, et ça c'est quand même très étonnant. Et je pleurais beaucoup. J'ai très ému des pleurs de Saint Jean. Hein. Quand le théologien pleure, c'est grave. C'est rare que le théologien pleure. Il est devant un mur, lui qui désire creuser et connaître. Et je pleurais beaucoup. Le théologien qui pleure. Vous avez déjà vu un théologien pleurer ? Très émouvant. Les pleurs de l'intelligence. L'intelligence se met à pleurer qu'à cause de la foi qui pénètre dans l'intelligence. Tout le monde ne pleure pas. Un philosophe ne pleure pas. Aristote a pas un chapitre sur les pleurs du philosophe. Vous pourriez intituler ça comme ça. Les pleurs du théologien et le sourire du philosophe. Le philosophe, il a un sourire ironique. Tandis que le théologien, il pleure. C'est extraordinaire, ça. Moi, je trouve ça très, très beau que le théologien pleure en face du mystère de la prédestination. Et je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Le théologien est en face d'une absence d'autorité. Alors il pleure. Aucune autorité. Personne n'a pu pénétrer dans ce mystère. Alors ça, je crois que ce serait très important. Et petite note sur les pleurs du théologien. Prochaine fête. Hein? Et les pleurs du théologien. Que chacun ait son petit poème sur les pleurs du théologien. Alors, il y aurait l'ensemble des pleurs du théologien. Ce serait très beau, ça. Quand avez-vous commencé à pleurer comme théologien ? Parce que l'avantage des jeunes théologiens, c'est qu'ils pleurent plus facilement que les vieux. Donc, commencez à voir les pleurs du jeune théologien. Les premières fois où le théologien pleure. L'intelligence n'aime pas de pleurer. Les intellectuels ne pleurent pas. Ils sont trop secs. Regardez, la première fois que j'étais à la Salette, c'était une année d'une sécheresse absolue. Et cependant, la source de la Salette continuait de couler. C'était extraordinairement éloquent. C'est vrai, quand il y a de l'eau partout et qu'on voit la source, bah oui, ça va de soi. Tandis que quand c'est sec partout, et qu'on voit que cette source continue. La sécheresse de notre monde vient que notre monde est conduit par des intellectuels cérébraux. Pas des sages, des intellectuels cérébraux. Notre monde est mené par ça. C'est pour ça que c'est si sec. Le sage peut encore pleurer, mais le scientifique ne pleure pas. C'est indigne du scientifique de pleurer. C'est l'affectivité qui pénètre dans l'intelligence, les pleurs. Je pleurais beaucoup, il ne dit pas qu'un peu. La petite source de la Salette, au milieu de tout ça, il pleure. La Sainte Vierge pleure. Parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas. Impérativement. Voici qu'il est vainqueur, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira le livre et ses sept sceaux. Vous voyez que c'est la victoire du lion de Juda qui lui permet d'ouvrir. C'est la victoire. C'est parce qu'il est victorieux. Il est victorieux par l'amour. Donc c'est l'amour qui permet de pénétrer dans le mystère de la prédestination qui est un mystère d'amour. L'amour seul révèle l'amour et permet de révéler les secrets de l'amour. Et je vis au milieu du trône et des quatre vivants et au milieu des vieillards un agneau debout. Alors ça c'est la grande vision de l'agneau debout. Vous voyez, quatre vivants et l'agneau debout. Mystère d'incarnation, mystère de la rédemption. Les deux aspects, complémentaires du reste. Inséparablement complémentaires. Chapitre 4, chapitre 5. C'est merveilleux comme harmonie, si vous voulez, pour le théologien. Le mystère de l'incarnation, le mystère du Sauveur. Et il est sauveur, c'est en tant qu'il est sauveur, victorieux, vainqueur par l'amour de toutes les conséquences du péché, qu'il peut ouvrir le sceau, qu'il peut recevoir le petit livre, ce livre mystérieux, tout le mystère de la prédestination du Père, il est associé. Ouvrir, ça ne veut pas dire simplement comme nous ouvrons une lettre, hein, c'est pas ça du tout. C'est d'être celui qui va coopérer. Et lorsqu'il eut pris le livre, les quatre vivants et les 24 vieillards tombèrent devant l'agneau, ayant chacun une cithare et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Ça, c'est la grande victoire. La grande victoire qui est proclamée par là. Vous voyez, nouvelle liturgie. Vous voyez la liturgie de l'agneau, la liturgie des quatre vivants et la liturgie de l'agneau. Alors ça, c'est intéressant pour voir au point de vue de la liturgie. C'est pas la même. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Les cithares. Hein, alors, vous voyez, l'exaltation des cithares. C'était quand même. Elles sont apocalyptiques. Elles sont inscrites dans l'Apocalypse, elles sont inscrites pour la prédestination. Chaque fois que vous jouez de la cithare, pensez au mystère de la prédestination. Autrement, ce n'est plus la cithare divine. Il chante un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. C'est très curieux, hein, comment le mystère de la croix est proclamé par l'ouverture des sceaux. L'ouverture des sceaux se fait dans le mystère même de la victoire de la croix. Et c'est la victoire de la croix qui fait comprendre cette ouverture des sceaux, donc qui nous fait comprendre la manière dont nous entrons dans le mystère de la prédestination. Nous ne pouvons pas entrer dans le mystère de la prédestination autrement que par là. Autrement, le mystère de la prédestination reste un mystère scellé. Ce n'est plus notre mystère. Il est extrinsèque. Depuis le mystère de la croix du Christ, de la victoire du Christ sur la croix, le mystère de la prédestination est nôtre, il nous est donné. Alors nous avons, chapitre 6, l'ouverture des sceaux. Mais dans cette lumière, oui, si on ne voit pas cela, on ne comprend pas les sceaux. Et c'est ça qui peut être la plus grosse difficulté de l'Apocalypse. Oui, c'est à la fois de maintenir toujours ce double regard d'extension et de pénétration. D'extension, alors on prend un point de vue historique. Et de pénétration, un point de vue purement spéculatif. Et ni l'un ni l'autre ne vont entrer dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est l'éternité dans le temps. Et donc chaque instant est gros de l'éternité. Chaque instant nous relie à l'éternité. Alors nous avons maintenant les sept sceaux, chapitre 6. Alors ça, c'est l'intent. On va dévoiler les sept grandes intentions de Dieu qui nous prédestinent. Nous sommes prédestinés à être des enfants de Dieu. Nous sommes prédestinés à être des saints. Vous voyez, c'est le mystère de la sainteté qui continue. Et la sainteté pour nous a sept dimensions. Vous ne pouvez pas être saint sans les sept dimensions. Évidemment, je ne dis pas que les sept dimensions seront parfaitement réalisées dans chacun des saints. Il y aura une particulière, mais il y a sept dimensions. Je crois que c'est ça qu'on doit dire. Et c'est cette dimension dans le regard d'intensité pour chacun d'entre nous et dans le regard d'extensité sur l'Église. Dans tout son développement. De sorte que la lecture des sept sceaux, l'interprétation des sept sceaux, doit se comprendre verticalement et horizontalement. Toujours. Nous sommes au XXe siècle. Année mariale, XXe siècle. Quand saint Thomas a lu l'Apocalypse, XIIIe siècle. Et la verticale était la même. Mais l'horizontale était différente. Je dois dire ça pour l'Apocalypse. Est-ce que je dois dire la même chose pour la somme théologique de saint Thomas? Pour la somme théologique de vers saint Thomas, une seule dimension, la verticale. Saint Thomas ne fait aucune allusion qu'il est au XIIIe siècle. Chartres ne lui fait pas comprendre davantage les attributs divins et la manière de vivre de Dieu.